VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du jeudi 20 octobre 2016. À la une ce soir.
Côte d'Ivoire, plusieurs leaders de l'opposition ont été arrêtés suite à une marche interdite contre la nouvelle constitution.
Les échauffourées continuent en Afrique du Sud entre étudiants et forces de l'ordre.
En Syrie, l'évacuation des maladies a commencé dans les quartiers est d'Alep.
Retour sur le troisième et dernier débat entre Hillary Clinton et Donald Trump. Le candidat républicain refuse de promettre le respect des résultats.
L'économie et les sports, juste après le journal. En Côte d'Ivoire, une manifestation de l'opposition contre le projet de nouvelle constitution soumis à un référendum le 30 octobre a été dispersée jeudi, aujourd'hui donc, à Abidjan par la police. Plusieurs leaders politiques, dont l'ancien président de l'Assemblée nationale, Mamadou Koulibaly, ont été interpellés. Salwa Jafari.
À l'entrée du quartier du Plateau, un important dispositif policier anti-émeute attendait les opposants du Front du Refus. Non à la monarchie Ouattara, pouvait-on lire sur une pancarte. Les manifestants réclament le retrait pur et simple du projet de constitution, accusant le président de proposer un projet de désaccord et de rupture sociale. Après avoir prévenu que la manifestation n'était pas autorisée, les policiers ont tiré du gaz lacrymogène et ont procédé à de nombreuses interpellations, dont celle de Mamadou Koulibaly, ancien président de l'Assemblée nationale.
Nous venons démocratiquement dire non à cette constitution. Monsieur Ouattara nous met en prison. Il peut continuer. Nous continuons.
Vendredi dernier, une autre coalition de l'opposition avait annoncé qu'elle boycotterait le référendum sur la nouvelle constitution qui est prévu à la fin de ce mois.
Le temps monte entre Paris et Kinshasa. La majorité au pouvoir en République démocratique du Congo accuse le chef de la diplomatie française, Jean-Marc Ayrault, d'exprimer de façon violente son antipathie vis-à-vis du président Joseph Kabila. Rappelons qu'un accord a été signé entre la majorité et une frange minoritaire de l'opposition, prévoyant un report à avril 2018 de la présidentielle censée avoir lieu cette année en RDC. En réaction à M. Ayrault, M. Ayrault avait affirmé que la seule façon de sortir de la crise, c'est pour que le président annonce qu'il ne se représente pas et qu'une date soit fixée pour l'élection.
Le ministre nigérien de l'Intérieur, Mohamed Bazoum, a souligné des défaillances à propos de l'attaque djihadiste qui a coûté la vie à 22 soldats début octobre dans un camp de réfugiés maliens à Tazelit, dans la région de Tawa, à 350 km au nord-est de Niamey.
La police sud-africaine a dispersé aujourd'hui à coups de grenades assourdissantes des centaines d'étudiants qui manifestaient à Pretoria pour réclamer la gratuité de l'enseignement supérieur. Ce mouvement paralyse plusieurs universités depuis un mois. Nathalie Barge.
Environ 500 étudiants ont défilé à Pretoria du centre-ville au palais présidentiel, encadrés par de nombreux policiers. Ils ont jeté des pierres contre les forces de l'ordre qui ont riposté avec des tirs de grenades assourdissantes. Les étudiants protestent depuis un mois contre la décision du gouvernement d'augmenter les frais universitaires pour 2017. Cette fronde perturbe plusieurs facultés, dont celle du Cap et l'université Wits de Johannesburg, qui a rapporté un incendie criminel dans l'une de ses bibliothèques. L'an dernier, les universités avaient déjà été le théâtre de troubles causés par la question des frais de scolarité. Après des semaines d'agitation, le gouvernement avait cédé en gelant la hausse des frais de scolarité pour 2016.
Troubles politiques en Éthiopie. Plus de 1500 personnes ont été arrêtées depuis l'instauration de l'état d'urgence le 9 octobre. Tel est le chiffre avancé par les autorités qui disent que c'est dans le cadre d'une enquête pour violence et dommages matériels. Un mouvement de contestation sans précédent a débuté depuis novembre 2015. La répression a déjà fait plusieurs centaines de victimes selon les organisations de défense des droits de l'homme.
Patrice Trovoada, le Premier ministre de São Tomé-et-Principe, a limogé quatre de ses principaux ministres cette semaine. Le premier défi de la nouvelle équipe sera de gérer des pluies diluviennes qui menacent encore Principe.
Les conflits au Soudan du Sud, des armes utilisées par les belligérants proviennent d'Europe de l'Est et d'Israël. C'est ce qu'indique l'ONU, qui précise que les armes passent notamment par l'Ouganda.
Au Sénégal, un hippopotame a été abattu par les habitants de Touréman, dans le sud du pays, près du fleuve Gambie. L'animal était entré dans un troupeau de vaches et les villageois ont cherché à protéger leurs bêtes, a affirmé un responsable cité par l'AFP. Ces herbivores, menacés de disparition, sont incriminés dans une trentaine de morts depuis une décennie, poussant de nombreux pêcheurs à déserter le fleuve Gambie.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, en Syrie, l'ONU a annoncé que les premières évacuations médicales à l'est d'Alep devraient avoir lieu demain. Des précisions avec Anastasie Tudiech.
Environ 200 personnes blessées et malades ont besoin d'être évacuées de toute urgence de l'est d'Alep, contrôlé par les rebelles. Selon l'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie, Stéphane de Mistura, 275 000 personnes et près de 7 000 combattants vivent dans ce secteur qui est soumis à un déluge de feu depuis l'offensive lancée par Damas le 22 septembre. Par ailleurs, l'émissaire onusien a noté que deux des quatre conditions d'un plan qu'il a élaboré pour l'est d'Alep ne sont pas remplies. Moscou a assuré que la pause humanitaire de 11 heures, entrée en vigueur aujourd'hui, durera jusqu'à samedi soir. L'armée syrienne s'y est également engagée. L'ONU a demandé à la Russie de prolonger la trêve jusqu'à lundi soir, les évacuations ne pouvant techniquement commencer que demain, selon un porte-parole. La requête est en cours d'examen par la Fédération de Russie.
L'armée turque a mené aujourd'hui des bombardements meurtriers contre des milices kurdes syriennes qu'elle considère comme des organisations terroristes, bien qu'elles soient appuyées par Washington dans la lutte contre le groupe État islamique. Un bilan de l'armée fait état d'au moins 160 morts au sein de la branche armée du parti kurde syrien dans 26 frappes menées dans la nuit d'hier à aujourd'hui dans la région d'Alep. De son côté, l'Observatoire syrien des droits de l'homme parle de 11 personnes tuées et 24 blessées dans ces frappes.
Après Mossoul, Raqqa, le président français prévoit une éventuelle campagne contre le bastion de Daesh en Syrie, au cas où les djihadistes chassés d'Irak y trouveraient refuge. Au-delà d'une reconquête militaire, François Hollande affirme qu'il faut à Mossoul l'inclusion de toutes les minorités, de manière à ce qu'il n'y ait pas un déchaînement de violence après la victoire des forces alliées. Il a fait cette déclaration à Bruxelles, où il participe à un sommet européen.
Les États-Unis et l'Arabie Saoudite ont pris conjointement des sanctions contre deux individus et une entreprise accusée de soutenir le Hezbollah, mouvement chiite libanais armé proche de l'Iran. L'annonce faite ce jeudi à Washington précise que les parties visées sont deux comptables et une société de nettoyage ayant des contrats à Bagdad en Irak. Leurs avoirs aux États-Unis et en Arabie Saoudite seront gelés. Deux autres proches du Hezbollah figurent sur la liste des sanctionnés pour avoir aidé à la planification d'actes de terrorisme.
Et des milliers de supporters de l'État hébreu venus du monde entier ont marché ce jeudi à Jérusalem à l'occasion de la fête juive de Soukhot. Des groupes brandissant des drapeaux des États-Unis, du Brésil, de Thaïlande et deux dizaines d'autres pays ont pris part à cette marche annuelle qui intervient deux jours après le vote de l'UNESCO sur Jérusalem. Ce vote est décrié en Israël comme niant le lien millénaire entre les Juifs et la ville de Jérusalem.
Les traditions ne se perdent pas. Aux États-Unis, tous les 4 ans, juste avant le scrutin, les candidats à la Maison-Blanche se retrouvent à New York pour un dîner de gala. C'est surtout l'occasion de bien manger et rire un peu. C'est organisé par le diocèse catholique de New York au Waldorf Astoria.
Au lendemain d'un débat d'une violence verbale inouïe, Hillary Clinton et Donald Trump doivent se retrouver à la même table ce soir. C'est pour un repas, autour du cardinal Timothy Dolan, dans les salons du prestigieux Waldorf Astoria, au cœur de Manhattan. Quelques 1500 invités sont attendus et chacun a payé au moins $3000. Le diocèse de New York organise l'événement au bénéfice d'œuvres de l'Église catholique. Il a appelé les deux prétendants à prononcer leur discours dans l'esprit de collégialité et de bonne humeur qui est la marque de fabrique de cette soirée. Joseph Swilling, porte-parole du diocèse, se dit convaincu que la tradition du dîner l'emporterait et que les querelles politiques seraient mises de côté. Le dîner Alfred E. Smith remonte à l'après-guerre pour honorer la mémoire de l'ancien gouverneur de New York qui fut en 1928 le premier catholique à représenter un grand parti à la présidentielle américaine. Il était surnommé le combattant heureux pour sa capacité à voir le bon côté des choses, même dans les moments les plus difficiles.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec John Lindon.
Au Gabon, les salariés de la compagnie pétrolière française Morel et Prompt sont en grève illimitée à Port-Gentil. Ils protestent contre le licenciement des 11 des leurs et réclament le respect du régime de travail sur les sites pétroliers. Selon l'Organisation nationale des employés du pétrole, ce mouvement de grève est suivi à 75% par la base et à 90% sur les sites pétroliers. L'économie libyenne est en déclin au cœur du marasme, l'or noir qui fournit au pays plus de 95% de ses revenus. Les revenus du secteur sont tombés à leur plus bas niveau historique, à peine 2 milliards de dollars pendant les 7 premiers mois de l'année, selon la Banque mondiale. Avant la révolution de 2011, la vente du brut rapportait 50 milliards de dollars par an à la Libye, qui produisait alors 1,6 million de barils par jour contre 335 000 barils par jour au premier semestre de cette année. La Banque européenne d'investissement s'installe au Cameroun. Selon le Financial Afrique, la BEI, dont l'activité est axée à plus de 90% sur l'Europe, ouvre aujourd'hui un bureau régional à Yaoundé. Cette représentation permettra à l'institution financière de renforcer l'appui européen aux grands projets d'investissement, aussi bien au Cameroun que dans la région Afrique centrale.
Plein feu sur les stades, les sports avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgane.
Nouveau classement FIFA, le Brésil a le sourire.
Le pays au Riverde est monté sur la troisième marche du podium, juste derrière l'Allemagne, championne du monde en titre. L'Argentine reste numéro 1 malgré ses déboires. Le Brésil de Tite a donc poursuivi son sans faute avec deux victoires, je vous le rappelle, 5-0 contre la Bolivie, 2-0 face au Venezuela. Le Brésil qui remonte donc sur le podium de ce classement FIFA. A noter que l'Espagne effectue son retour dans le top 10 en éjectant le pays de Galles. La Russie en revanche, pays qui va organiser la prochaine Coupe du Monde en 2018, pointe à la 53e place. La Côte d'Ivoire, 31e, premier pays africain, mais quelques changements notables dans la zone Afrique avec le Sénégal qui gagne 7 places. Les Lions de la Teranga qui double l'Algérie, toujours 35e, que talonne 2 places. Alors que la Tunisie se rapproche également, 38e plus 4 places. Ces trois derniers pays, on rappelle, seront dans la même poule lors de la prochaine CAN 2017 au Gabon. La République démocratique du Congo est 49e et réintègre le top 50 mondial, tandis que le Cameroun, 59e, pointe devant le Maroc, 60e et l'Afrique du Sud, 62e.
Thomas Touré, indisponible, plusieurs mois d'absence avec Bordeaux.
L'attaquant international ivoirien de Bordeaux, sérieusement touché aux ischio-jambiers, devra se faire opérer avec un éloignement des terrains pour plusieurs mois. C'est ce qu'a indiqué son entraîneur Jocelyn Gourvennec. L'international ivoirien, avec une sélection âgée de 22 ans, a disputé 6 matchs cette saison de Ligue 1 et délivré une passe décisive.
Rudy Garcia, nommé entraîneur de Marseille.
Oui, Rudy Garcia a été nommé entraîneur de l'Olympique de Marseille en remplacement de Franck Passy, et ce 3 jours seulement après l'officialisation de la vente du club à l'homme d'affaires américain Frank McCourt, l'ex-technicien de Lille, auteur du doublé Coupe Championnat de France en 2011 et de l'AS Rome, sera sur le banc dès dimanche au Parc des Princes pour le Classico contre le Paris Saint-Germain.
Et enfin en tennis, Kerber assuré de finir l'année à la première place mondiale.
Oui, l'Allemande Angélique Kerber est assurée de terminer la saison à la première place mondiale, quels que soient les résultats des derniers tournois. Kerber, 28 ans, succède à Serena Williams, distinguée les 3 années précédentes. L'Allemande a détrôné l'Américaine à l'US Open en septembre. Elle avait gagné à New York le 2e trophée majeur de sa carrière et après celui de l'Open d'Australie. La gauchère allemande a aussi joué la finale de Wimbledon et celle des Jeux Olympiques de Rio. Kerber a également remporté le tournoi de Stuttgart. Son bilan cette année est de 59 victoires pour 17 défaites.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique, Morgane Guériac et Gaby Dorcy dans votre compagnie. Place au dossier du jour, première escale, le Congo-Brazzaville.
Une mission humanitaire du gouvernement assiste les déplacés qui se sont réfugiés à Mindouli, à Loutété et Yamba, dans le département voisin de la Bouenza. Au total, 7000 personnes ont reçu du riz, du sel, du sucre et du poisson salé. Une action humanitaire critiquée par certaines organisations de la société civile qui accusent les agents du gouvernement d'avoir le monopole de circuler dans la région du Poul. Le reportage de Ngolan Goussou, notre correspondant à Brazzaville.
Militaire organisé par le gouvernement qui a dépassé le cap de Kinkala. Quelques 7000 sinistrés ont pu être assistés en poissons salés, en sucre, en savon, en sel. Les autorités ne redoutent cependant pas une situation humanitaire catastrophique si les violences en cours ne s'arrêtaient pas. Le directeur général de l'action humanitaire, Clément Essieke, a conduit cette mission.
Et cette crise a provoqué d'importants mouvements de population à l'intérieur du département du Poul et à l'extérieur, et notamment dans le département voisin de la Bouenza. C'est pour dire que le besoin alimentaire est vraiment pressant, ce qui a justifié justement notre assistance d'urgence. Vous savez, notre population vit d'agriculture. Et lorsque dans ces départements, les gens n'ont plus accès aux champs, il est évident que le besoin alimentaire se fait pressant.
Les organisations de la société civile, astreintes aux multiples autorisations pour accéder dans le Poul, voient d'un mauvais œil ce déplacement du gouvernement dans ce département. Luamba Moké, président de la DUC, n'est pas loin de mettre en doute cette assistance du gouvernement.
Quand le gouvernement décide d'aller tout seul, ça nous donne pas une... Pour nous, ce n'est pas une crédibilité. Il n'y a pas tellement du sérieux pour nous. C'est une évaluation. Qui ils ont rencontré qui et dans quel départ, dans quel village ils sont. Est-ce qu'ils ne sont pas arrêtés à Kinkala? Bon, dans le pôle, vous aviez à chaque coin, il y a des militaires, il y a des armes lourdes. Mais nous, on ne pouvons pas prendre ce risque-là.
Caritas Congo, elle, travaille sur ses propres chiffres avant de commencer une assistance dans le pôle. Mais le travail des humanitaires n'est pas facile. Alain Robert Moukouri est le secrétaire général de Caritas Congo.
Ah non, c'est une situation humanitaire dramatique. Vous savez que nous sommes en pleine saison de pluie. Donc ces personnes ne sont pas dans des installations tellement appropriées. Il y a les déplacements de population, il y a la piscose qui est très fortement. On peut aussi noter que nos équipes n'arrivent pas à aller partout. Actuellement, la situation est plus difficile que courant avril.
Les cas de malnutrition sévère sont donc à craindre. Nguela Ngoussou, Brazzaville, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique à Brazzaville, sur le 101.9 FM.
Au Mali, les agents de santé sont en arrêt de travail de 5 jours depuis lundi. Le Syndicat national de la santé et de l'action sociale a décrété cette grève, se limitant au service minimum. La grève a paralysé le fonctionnement des services de santé à Bamako. Les grévistes estiment que l'État malien refuse de satisfaire leurs revendications, comme l'intégration dans la fonction publique des contractuels payés sur ressources propres, l'augmentation des primes de fonction spéciale, des primes de garde et des primes de mouture. Kassim Traoré nous en dit plus.
Le manque d'affluence au niveau des guichets d'entrée du centre hospitalier universitaire Gabriel Touré de Bamako a une raison. Jimmy Kanté, agent sanitaire au CHU Gabriel Touré de Bamako, membre du comité syndical.
Les revendications tournent essentiellement autour de 3 axes majeurs, c'est-à-dire l'amélioration des conditions de vie et de travail, l'avènement d'une bonne gouvernance dans les structures sanitaires et l'amélioration des conditions de soins, d'accueil et d'hospitalisation des patients qui arrivent dans nos structures sanitaires.
En faisant un tour dans certains centres de santé de Bamako, les patients, accompagnateurs des malades et tout comme les autres usagers de ces centres ne cachent pas leur colère.
Cette grève vraiment nous a donné une grande difficulté. Moi personnellement, j'ai ma femme ici il y a au moins 72 heures comme ça. Maintenant, je vais chercher un médecin ailleurs. Là, c'est pas confortable. faut que le gouvernement aille une solution sur ça, sinon nous ne sommes pas à l'aise vraiment.
Ah, vraiment, ce n'est pas facile. Il y a des patients qui souffrent, mais ils n'ont pas le choix. Oui, il y a le service minimum qui est là. En tout cas, moi, je suis arrivée hier seulement. Ils se sont occupés de moi. Chez moi, en tout cas, ça va.
Les centres de santé communautaires observent aussi cette grève. Ce sont les cliniques privées qui ne sont pas concernées. Mais la majorité des Bamakois fréquentent les centres et les hôpitaux publics.
Si les docteurs sont en grève, là, vraiment, ce n'est pas du tout bon. Les grèves, là, on ne sait pas que ça soit continuel, il faut que ça soit limité. Ça, c'est notre fait.
On est malade, on ne sait pas comment on va faire. Moi-même, je souffre tellement. Hein? La nuit même, je n'ai pas, même pas dormi. Parce que j'ai la fin que l'on ouvre la baraque et on n'en a pas. Depuis, ça fait 3 jours.
En cette 4e jour de grève, les usagers des centres de santé publique pensent que les 5 jours sont trop. Un avis partagé par Jimmy Kanté du comité syndical du CHI Gabriel Touré.
Une journée de grève pour un travailleur socio-sanitaire, c'est excessif. 2 jours, c'est trop. Et 5 jours, c'est vraiment inadmissible. Ça, nous le reconnaissons. Mais comment voulez-vous, lorsque le partenaire en face n'est pas vraiment prêt à soulager sa propre population?
Après ces 5 jours de grève, le syndicat national de la santé et de l'action sociale va tirer le bilan et adopter la conduite à tenir. Au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, on s'est dit disposé à faire le dialogue avec les syndicalistes. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Cap sur le Togo. L'année académique a débuté lundi, mais pour certains étudiants, l'inscription dans les universités publiques n'est pas aisée. Le processus peut être complexe quand on ne dispose pas de certificat de nationalité. Reportage à Lomé de notre correspondante Kay Lawson.
Alani Nabiou, 18 ans, a obtenu cette année son bac littéraire et veut poursuivre ses études pour devenir interprète. Mais les portes des études universitaires lui semblent être fermées car ce jeune Togolais a des difficultés pour se faire établir son certificat de nationalité, un document indispensable pour s'inscrire dans les universités publiques. Témoignage d'Alani Nabiou.
Je suis Togolais et aujourd'hui j'ai des difficultés pour continuer mes études. Et d'abord pour m'inscrire à l'université, j'ai besoin de la nationalité. Et sans la nationalité, je ne peux pas m'inscrire à l'université. Si j'arrive à avoir la nationalité, je veux faire l'anglais. J'envisage être un traducteur.
Saisi, la direction de la nationalité a rassuré que le certificat de nationalité sera délivré à Alani Nabiou dans un délai de 15 jours. Car des dispositions existent pour prendre en compte des cas types, notamment la facilité octroyée aux nouveaux étudiants. Victoire Chamdja Pacha, directrice du sceau de la nationalité et de l'identité civile.
Les nouveaux bacheliers bénéficient de 2 semaines en moins par rapport aux demandes ordinaires depuis les vacances 2013. Et généralement, nous leur accordons cette faveur jusqu'à mi-octobre, fin octobre pour plus tard. Et après ça, tous les bacheliers en retard verront leur dossier traité comme des dossiers ordinaires.
Par manque de certificat de nationalité, Espoir Prénam a raté une opportunité de bourse. Elle nous raconte sa mésaventure.
Quand j'ai eu le bac, j'avais une moyenne de 12. Et on nous demandait que ceux qui ont eu la mention assez bien puissent apporter leur dossier afin de pouvoir bénéficier d'une bourse pour poursuivre les études au Maroc. Mais il y avait la nationalité qui me manquait. Cela n'a pas été fait à temps. Et donc, j'ai raté la bourse pour le Maroc. Et encore, j'ai raté une formation au campus où aussi je devais utiliser cette nationalité-là.
Pour la directrice du sceau, le certificat de nationalité n'est pas moins important que l'acte de naissance. Nous retrouvons Victoire Chamdja Pacha.
La nationalité, je ne dirais pas qu'elle est plus précieuse que la naissance, mais elle est autant précieuse que la déclaration de naissance.
Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
course à la Maison-Blanche, retour sur le troisième et dernier débat entre Hillary Clinton et Donald Trump à Las Vegas, dans le Nevada. Le point avec Timothée Dolangmai et Idrissa Seloudia.
Le troisième débat entre la démocrate Hillary Clinton et le républicain Donald Trump aura été marqué par le refus de M. Trump de s'engager à reconnaître les résultats de la présidentielle de novembre, quels qu'ils soient. Je verrai à ce moment-là. Je ne vois rien pour le moment. Et ce que j'ai vu est tellement mauvais. Tout d'abord, les médias sont si malhonnêtes et si corrompus, suscitant une vive réaction de Mme Hillary Clinton, qui l'a alors accusée de remettre en cause le système démocratique américain. Sur l'immigration, Donald Trump a attaqué la position de son adversaire. Nous n'avons pas de pays si nous n'avons pas de frontières. Hillary veut accorder l'amnistie, elle veut avoir des frontières ouvertes. Plus de 16 500 gardes-frontières ont endossé ma candidature la semaine dernière, la première fois qu'ils le font pour un candidat. Hillary Clinton a affirmé qu'elle proposera un plan global et réaliste de réforme de l'immigration. Je ne veux pas déchirer les familles, je ne veux pas envoyer les parents loin de leurs enfants. Nous avons 11 millions de sans-papiers qui ont 4 millions d'enfants citoyens américains. L'économie domestique, la politique fiscale, la situation en Irak et en Syrie, le rôle de la Russie sont d'autres sujets qui ont fait l'objet des discussions entre les deux candidats à la présidentielle.
Les réactions, nous commençons avec le professeur Souleymane Béchir Diagne de Columbia University à New York.
Hillary Clinton a maintenu l'avance qui est la sienne. Elle s'est exprimée avec beaucoup de clarté. Il n'y a pas eu, par rapport aux autres débats, d'éléments véritablement nouveaux, sauf peut-être un, c'est que le candidat Trump est revenu sur cette idée que les élections étaient faussées.
Autre réaction, celle de Serge Banyongen, professeur de relations internationales à l'Université d'Ottawa.
Ce Trump est resté égal à lui-même et il a une démarche qui est classique, qui se présente comme quelqu'un qui n'a pas été là aux affaires depuis 30 ans, comme Mme Clinton.
Est-ce que c'est une approche qui permet à M. Trump d'élargir sa base afin de gagner en novembre?
C'est vrai que les gens sont en recherche d'un candidat qui serait iconoclaste. Sauf que le candidat Trump plonge trop dans une sorte de comédie de la politique pour qu'il soit plutôt sérieux.
Timothée, vous avez parlé à Angèle Kouemo, qui est originaire du Cameroun et directrice pour l'Afrique du Washington Media Group.
Pour l'immigration, j'étais aussi surprise de voir que quelques-uns parmi nous étaient d'accord avec Donald Trump. C'est vrai qu'il faut, bâtir le mur. C'est vrai que tout pays a besoin de protéger sa territorialité, sa souveraineté. Mais faire un plan d'immigration sur la base d'une petite minorité de criminels, à mon sens, n'est pas très intelligent. En général, ils sont tous d'accord avec le plan que Hillary a présenté. Une approche globale d'immigration avec la protection des frontières, créer une avenue de légalisation pour les immigrés qui sont là, en concluant d'une façon plus ou moins ironique que des illégaux ici aux États-Unis payent plus d'impôts que les milliardaires comme Donald Trump.
Angèle Kouemo, directrice pour l'Afrique du Washington Media Group, ici à Washington.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque jeudi dans l'émission RM Show, entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, African Music. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA. Ne ratez pas votre émission interactive. Participez en direct. RM Show vous dit Peace Africa.
C'est la fin de cette édition. Michel Joseph était à la production, à la console Nashwan Calais. Présentation Morgane Diayek et Gaby Dorsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci d'avoir encore une fois choisi VOA Afrique. On reste ensemble sur Facebook où nous avons 2 millions de fans. Merci de votre fidélité. N'oubliez pas de visiter aussi notre site internet voaafrique.com pour plus d'infos 24 heures sur 24.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone, sur 99 FM Abidjan, à Brazzaville, sur 101.9 FM, à Lomé 99.5 FM, 92.9 FM, Bahia, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.